Herr Dr. Max Petit-Pierre.
Monsieur le recteur, 500 ans, un demi-millénaire, c'est un espace de temps impressionnant si l'on songe à tout ce qu'il peut contenir d'événements, d'évolutions et de bouleversements, de progrès et de reculs. Votre université a traversé cette longue période, elle aussi, cela va de soi, en se transformant. Mais ce qui frappe à parcourir son histoire, c'est la manière harmonieuse dont son existence s'est déroulée, non pas à l'abri des événements, mais en les assimilant, en évitant de se laisser dominer par eux. Née d'une bulle pontificale, elle s'est ouverte à l'humanisme, et si la réforme l'a d'abord surprise, elle ne l'a pas empêchée de prendre rapidement un nouvel essor. Les crises qu'elle a traversées n'ont jamais été graves ni longues. Sa réussite, qui s'étend sur 5 siècles, tient avant tout à ce que votre université n'a pas été la création d'un régime politique ou ecclésiastique, mais qu'elle a été voulue par la cité elle-même et que tout en étant largement ouverte à ce que l'extérieur pouvait lui apporter, elle a dès le premier jour et constamment fait corps avec cette cité et sa population. Sa fondation a été un acte audacieux, son développement est le résultat d'un effort auquel le peuple de Bâle n'a cessé de participer. Aucune difficulté, aucune lassitude n'ont altéré ou affaibli cet attachement actif des Bâlois à leur université. C'est pourquoi celle-ci n'a pas été soumise à l'usure que le temps fait subir si souvent aux institutions. Il n'est pas surprenant qu'au moment où la Confédération se transformait en État fédératif, alors qu'un courant se dessinait en faveur de la création d'une université fédérale, les Bâlois aient été parmi les adversaires les plus résolus de ce projet. On doit se féliciter que la Confédération ait en définitive renoncé à user de la compétence que lui donnait sa Constitution et qu'elle ait ainsi permis à plusieurs de nos villes de rester des foyers de culture académique et des centres de rayonnement pour le plus grand bien de tout le pays. Bâle n'est pas entré dans la Confédération les mains vides, elle lui a donné sa première université, mais en la gardant pour elle et en veillant à ce qu'elle demeure bâloise. Si l'on éprouve des satisfactions légitimes à se tourner vers le passé et à en rappeler les étapes, et cela surtout quand c'est un beau passé comme celui de votre université, un anniversaire doit être aussi l'occasion de chercher, sinon à percer l'obscurité et les incertitudes de l'avenir, tout au moins à discerner ce que celui-ci nous réserve et, dans la mesure du possible, de le préparer pour ne pas avoir à le subir. Nous sommes précisément, me semble-t-il, arrivés à un point où l'avenir n'est pas simplement le prolongement du passé, mais où s'ouvrent de nouvelles perspectives qui, si nous n'y prenons garde, peuvent mettre en danger les traditions et impliqueront en tout cas un changement dans les habitudes. Les universités de notre pays ne sont pas épargnées par les transformations du monde actuel. Ainsi, en quelques années, les objectifs et les conditions de la recherche scientifique et de l'enseignement des sciences exactes se sont profondément modifiés. Naguère encore, la recherche avait sa fin en elle-même et tendait à la découverte de lois nouvelles. Elle était la plupart du temps le fait d'individualités qui travaillaient dans des laboratoires avec des moyens relativement simples. Il n'en est plus de même aujourd'hui. Recherche et enseignement sont entrés au service de l'économie d'abord. La science d'aujourd'hui, c'est le développement industriel de demain et la prospérité d'après-demain. Puis ils sont devenus des moyens d'action politique. Un pays doit participer à la recherche de base et appliquée, et pour cela former en nombre accru des hommes de science et des techniciens s'il ne veut pas se laisser dépasser. La recherche elle-même, la découverte, prennent des formes nouvelles. Elles deviennent le fait d'un groupe, d'une équipe, et non plus d'un savant isolé, et s'appuient en général sur une masse d'expériences et d'essais et sur le dépouillement de leurs résultats. Dans les nouveaux domaines ouverts par la science au cours de ces dernières années, la recherche est devenue très onéreuse. Ces progrès sont liés de plus en plus à la puissance matérielle. Les gouvernements des plus grands pays ont pris la direction de la recherche scientifique qu'ils subordonnent à leurs intérêts politiques et militaires et ils consentent à de lourds sacrifices pour la développer. Cette évolution crée, au détriment des petits pays, une inégalité que ceux-ci doivent tenter de corriger, non pas en imitant les grandes puissances, en poursuivant les mêmes objectifs qu'elles, mais en s'efforçant de ne pas se laisser distancer par elles dans le domaine des connaissances nouvelles et de leurs applications pacifiques. Il y a là un problème pour nos universités et leurs facultés des sciences. Recherche scientifique et formation de cadres sont devenus un problème national si la Suisse veut garder sa place parmi les nations qui ont l'ambition de participer au progrès de la science et de bénéficier des possibilités qu'elle ouvre sur les plans les plus divers. Nos moyens humains et financiers sont limités. Il faut éviter le gaspillage qui résulterait de leur dispersion. Nos universités se trouvent donc dans la nécessité de coordonner leurs efforts et leurs activités et de procéder à une certaine division du travail entre elles. Ce ne sera sans doute pas encore suffisant. Une coopération plus large devra s'instituer avec les pays qui sont dans la même situation que nous et dont les moyens ne peuvent se mesurer à ceux des deux plus grandes puissances mondiales. Le cadre naturel de cette collaboration élargie est l'Europe. Il y a là un vaste domaine où toutes les forces de l'Europe peuvent s'unir dans l'intérêt commun. Mais cette coordination sur le plan européen comme sur le plan suisse ne doit pas devenir une centralisation qui porterait atteinte à l'autonomie et à l'indépendance des universités. D'ailleurs, le développement des sciences à un rythme accéléré et les exigences qu'il entraîne ne doivent pas faire oublier ou négliger les autres disciplines universitaires dont l'enseignement peut se poursuivre selon les méthodes traditionnelles. Les sciences morales prennent au contraire une importance accrue. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Elle constitue un élément indispensable de la nouvelle culture scientifique qui est en train de se former. L'humanisme, auquel votre université a attaché son nom au cours des siècles, doit permettre de contrôler l'usage que l'homme fait de ses découvertes, lui rappeler que la matière est à son service et doit contribuer à son bien-être, et que les forces qui, grâce à la science, peuvent s'en dégager ne sont qu'une forme de brutalité si elles ne se laissent guider par l'esprit. Il faut éviter que la science et la technique ne prennent une place démesurée et ne se substituent peu à peu à la culture, que la tâche première des universités est de sauvegarder, de défendre et de répandre. Et cela d'autant plus que la solution des problèmes fondamentaux qui se posent au monde actuel ne dépend guère des progrès de la science. Mais les temps actuels nous imposent d'autres tâches d'une nature différente. La fin de l'ère coloniale et l'accession à l'indépendance de peuples entiers mettent en mouvement des forces qui cherchent encore leur voie et hésitent sur la direction qu'elles prendront. Les pays nouveaux attendent de l'extérieur l'aide dont ils ont besoin pour combler leurs lacunes et le retard qu'ils peuvent avoir dans plusieurs domaines. Ils souhaitent que nous collaborions avec eux, non seulement sur le plan économique et technique, mais aussi culturel et scientifique. Les universités se doivent de participer pour leur part à cette coopération. L'Institut des Tropiques que votre université a créé il y a quelques années a déjà été un pas dans cette direction. Jusque récemment, nos universités exerçaient leur activité dans un cercle relativement fermé, même si elles faisaient appel à des professeurs venus de l'extérieur ou accueillaient des étudiants étrangers. Chacune d'elles pouvait suivre son propre chemin, plus ou moins indifférente aux voies dans lesquelles les autres étaient engagés. Mais aujourd'hui, de quelque côté que nous portions nos regards, à l'extérieur comme à l'intérieur, nous voyons des tâches nouvelles se présenter devant lesquelles notre pays ne peut pas se dérober et qui exigent la mise en action de toutes ses ressources, en particulier de celles qu'offrent nos universités. Celles-ci sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans notre vie nationale. Elles doivent résister à la tentation de se replier sur elles-mêmes. La vie d'un pays est devenue globale. Il n'y a plus de cloison possible entre les grandes activités, celles de la politique, de l'économie, de la science. Il n'y a plus de tour d'ivoire où se réfugier. Toutes les énergies, toutes les intelligences doivent s'engager dans cette lutte à laquelle nous sommes contraints et dont l'enjeu est pour nous la civilisation et la culture qui ont fait de nous ce que nous sommes et qui donnent leur sens à nos vies. Votre université, Monsieur le Recteur, a brillé au cours des siècles d'un éclat particulier grâce à la valeur des hommes qui y ont enseigné, grâce à l'appui qu'elle a constamment trouvé dans la cité dont elle faisait partie, grâce à l'esprit d'entreprise des Ballois qui leur a permis d'assurer ses conditions matérielles d'existence et son développement. Par la tradition qu'elle a créée, sous le signe de la culture, une culture fondée sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, dans un esprit de tolérance et de liberté, elle a largement contribué au rayonnement de notre pays. La Confédération et le peuple suisse lui en expriment aujourd'hui toute leur gratitude. Devant les responsabilités nouvelles qui nous incombent et dont nos universités ont leur part, celle de Bâle est plus que toute autre prédestinée à jouer un rôle actif. Le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un passé, c'est de consacrer les forces qu'il a créées à façonner l'avenir. Il manque au monde moderne une politique et une morale sur lesquelles pourrait s'édifier un ordre et renaître un humanisme à la mesure des découvertes de la science et des techniques qui en sont issues. Un humanisme qui referait de la science ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une source non de puissance mais de sagesse. Ainsi, une vaste tâche qui comprend toutes les autres, s'offre à nos volontés. Je ne doute pas que votre université, Monsieur le Recteur, ne participe à son accomplissement par ses professeurs, par ses étudiants, dans la fidélité aux valeurs essentielles qui ont été la substance vivante du grand passé que vous fêtez aujourd'hui.